Nous lirons donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient » et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. » Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l'étoile qu'ils avaient vue dans Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Chers amis, s'il est des personnages des évangiles ayant inspiré les artistes bien au-delà de l'ampleur de leur présence dans des textes bibliques, eh bien ce sont bien les mages. Seul Matthieu les met en scène en quelques versets, mais quelle postérité ! Des peintures, des statues, de la musique, des romans, des poèmes, des chansons. Leur renommée est immense à travers les siècles. Alors mettons-nous tout de suite d'accord, ils ne sont pas trois. Matthieu ne les compte pas. Et d'ailleurs, il n'aurait certainement pas choisi le chiffre 3 qui est le chiffre divin. Les mages sont devenus trois, peut-être parce qu'il y avait trois cadeaux, l'or, la myrrhe et l'encens, ou peut-être parce que dans l'Antiquité, seuls trois continents sont connus, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et les mages deviennent alors les représentants de l'ensemble de l'humanité. Ils ne sont pas non plus nommés. Ce n'est qu'à partir du 8e siècle qu'ils deviendront Gaspard, Melchior et Balthazar. Et c'est encore plus tard, au XIIIe siècle, qu'un chroniqueur de la vie des saints, Jacques de Voragine, écrit dans son ouvrage qui s'appelle « La légende dorée », il y décrit le vieux Melchior, le plus âgé, qui offre l'or, le tout jeune Gaspard et Balthazar. Et puis, ils ne sont pas rois. Même si, dès le IIe siècle, ils ont été comparés aux rois de Tarsis, des îles, de Saba, de Séba, qui sont évoqués dans le psaume 72 et qui offrent des présents au roi d'Israël. Au début de son évangile, Matthieu ouvre la généalogie qui inscrit Jésus comme fils de David, vous vous en souvenez peut-être, à des femmes, des étrangères, des audacieuses, des passeuses de vie. Et un petit peu après, dans notre texte d'aujourd'hui, Matthieu ouvre une route d'Orient, c'est-à-dire la route d'où vient la lumière, pour amener des mages célébrer la naissance du roi des Juifs, disent-ils eux, alors que Matthieu a bien écrit du Christ. Cette naissance n'intervient pas dans leur pays, ce sont des étrangers qui ont une autre culture, ils ont un autre roi que celui qui siège à Jérusalem, et ce Christ n'est pas expressément envoyé par leur propre Dieu. Ces mages sont des savants d'une science qui se conjugue toujours avec une religion. À l'époque, peut-être le culte de Mitra, peut-être le culte d'Ahura Mazda, un dieu de lumière. Les mages sont des astronomes, des astrologues, et leur science est extrêmement ancienne, aussi ancienne que la culture mésopotamienne. Ce sont des hommes de savoir et d'influence qui conseillent les rois et les puissants. Et c'est ainsi, en amenant ces mages venus d'Orient, c'est ainsi que l'évangéliste Matthieu est le témoin d'un évangile sans frontières et sans a priori. L'évangile aux dimensions universelles. Et Matthieu l'inscrit au début de son récit, et c'est de la même manière qu'il terminera l'évangile au chapitre 28 avec toutes les nations. Bien sûr, cette universalité n'est pas seulement question de géographie. Elle implique les langues, les cultures, les manières de vivre, les spiritualités, l'extrême diversité des chemins d'existence. Matthieu, qui est très attaché et très respectueux du judaïsme, n'en est pas moins remarquablement libre et ne cesse d'ouvrir des portes, des routes, des passages, d'ouvrir aussi des langages d'antiques récits légendaires, des passages, d'ouvrir la foi dans la conviction essentielle que l'Évangile peut rejoindre et accueillir chacun sans condition et là où il est, ce qui est tout de même le meilleur moyen de le toucher et de lui parler. L'advenue du Christ déborde largement le cadre religieux et particulièrement le cadre de la religion qui se réclame de lui. Le premier évangile du Nouveau Testament commence par décoller radicalement l'évangile, la bonne nouvelle, des formes et traditions qui prétendraient la contenir. Il invite au croisement, aux rencontres, au dialogue sans préjugés. Il élargit, il assouplit, il aère. Plus, il ne cesse de créer des courants d'air. Avec les artistes qui cherchent et s'expriment en paroles, en notes, en couleurs, en formes, en nuances. Avec les scientifiques qui explorent les mystères et les merveilles de ce que contient l'univers, du plus infime au plus infini. Avec les aventuriers qui conjuguent l'effort à l'immensité des océans, des montagnes, des déserts ou des airs. Avec les philosophes qui arpentent les questions et les pensées, les idées, et avec d'autres encore. Pour Matthieu, ce sont des mages qui apprennent les premiers la naissance du Christ, et ce sont des mages qui viennent l'annoncer à Jérusalem. Cette hospitalité évangélique que Matthieu déploie dès le commencement de son récit se traduit dans les deux dimensions de l'accueil et de l'envoi, recevoir et aller vers, l'une et l'autre engageant une dynamique intérieure, spirituelle, existentielle, dont la métaphore du chemin ou de la route rend également compte. D'ailleurs, les premiers chrétiens, avant que ce nom soit posé sur eux, étaient désignés, se désignaient comme ceux du chemin, ceux de la voie, avec un E. Matthieu met donc des mages étrangers et païens en route jusqu'à Jérusalem pour annoncer la naissance du roi des Juifs. À Jérusalem, la capitale, où personne ne bouge. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? À la question des mages répond le trouble du roi Hérode et de la ville de Jérusalem. Mais un trouble peut devenir un mouvement ou pas. Un trouble peut mettre en route ou devenir une occasion de renforcer sa stabilité. Que rien ne change. Un trouble, un bouleversement, une agitation, cela peut mobiliser pour un déplacement ou retomber sans effet ou provoquer une réaction contre ce qui l'a fait naître. Ainsi, les mages qui ont vu l'étoile et ont interprété son message se sont mis en route. Et c'est un long voyage. C'est toujours un long voyage pour aller vers l'étranger. Mais c'est un voyage dans lequel on s'engage quand on croit qu'il y a là, dans l'étranger, un être précieux. Les habitants de Jérusalem, les grands prêtres et les scribes entendent la nouvelle, mais n'en tirent aucune conséquence. Une stupéfiante torpeur d'esprit dont nous faisons toujours l'expérience qu'elle peut être provoquée par une idéologie ou par un quotidien trop pesant ou par la peur de briser un précaire et instable équilibre. Hérode, lui, le roi, manigance pour conserver le pouvoir fragile que lui a concédé l'Empire romain et rester roi à Jérusalem à n'importe quel prix. C'est comme s'il n'y avait à Jérusalem, la ville de David, aucune attente et aucune espérance. Alors, Matthieu, bien sûr, ne décrit pas l'atmosphère de Jérusalem au début de notre ère. Ce récit, c'est pour nous aviser, c'est pour annoncer, c'est pour éclairer, pour avertir, pour enseigner, pour aider à discerner et à comprendre. Comprendre que s'accommoder d'une stabilité qui à Jérusalem a pour nom la Pax Romana, la paix romaine, cet accommodement peut sembler préférable à l'effervescence de l'espérance. Nous faire comprendre que la satisfaction d'être chez soi, finalement, à Jérusalem, avec ses rites, ses lieux, le temple, les fêtes religieuses, cela peut être bien supérieur à l'aspiration, à l'existence, qui est littéralement un mouvement vers l'au-delà de soi. Nous faire comprendre que le prix à payer pour la tranquillité peut être considéré comme acceptable et supportable par rapport à la conversion, à la justice ou à la paix, car c'est de cela dont il est question avec le roi des Juifs. Le roi des Juifs, c'est le garant de la justice et de la paix pour le peuple. Nous faire comprendre aussi que la foi peut s'assoupir dans un savoir, des connaissances, des traditions et le repli sur soi, au lieu de stimuler l'interprétation, la critique, l'échange et la création. Les mages apportent à Jérusalem un double présent, une bonne nouvelle et un temps nouveau. Mais personne ne veut recevoir ce présent. L'installation, cette forme de stabilité en recouvert l'espérance, qui en est la mise en question de toute installation, de tout système bien établi? Les conditions, les états, les systèmes, ces équilibres-là ne sont pas vivifiants, dit l'espérance. Le bon est au-delà, la justice est autre, la paix est différente, la vérité n'est pas ce que vous tenez dans vos mains. Le point de référence de la mise en question, c'est à Jérusalem la notion de la royauté en Israël, abondamment travaillée dans la Bible hébraïque. Pour Matthieu, c'est l'Évangile, c'est ce point de vue et de compréhension qui empêche de se satisfaire de ce qui empêche le présent d'être un présent en vitalité. Même si c'est un point de vue qui n'empêche pas de reconnaître ce qui est bon et de s'en réjouir. Matthieu nous invite à suivre les mages dans son récit, dans ce que leur parcours révèle. Car si aujourd'hui c'est le dimanche de l'Épiphanie, ce qui signifie manifestation, apparition soudaine, surgissement de compréhension, eh bien, il y a forcément donc de l'apocalypse, de la révélation dans l'épiphanie, qui nourrit, qui éclaire, qui désaltère, qui autorise, qui dynamise, qui vivifie. Et ce sont ainsi sept caractéristiques qui apparaissent dans le parcours des mages. Sept caractéristiques qui parlent de ce qu'est être vivant et être présent au monde. Ce qui est en lien, murmure Matthieu, à la venue au monde de Jésus le Christ, c'est-à-dire à une divine et créatrice volonté, parole, bonté. La première caractéristique, c'est que les mages ont d'abord ouvert les yeux, ils ont observé, ils ont scruté. En même temps, c'est leur occupation de mage, de regarder les étoiles. Mais c'est une occupation d'humain, de regarder, de s'intéresser, d'être attentif à ce qui se passe, à ce qui surgit, étoile ou autre, même aux frêles surgissements, même aux minces inattendues. La deuxième caractéristique, c'est que les mages ont interprété ce qu'ils ont vu. L'apparition de l'étoile correspond à la naissance du roi des Juifs. Mais c'est aussi une tâche d'humain d'interpréter ce qui survient et de l'interpréter dans une lumière qui fait sens pour soi, pour le monde, pour ses relations avec autrui. Et point n'est besoin d'être savant ou expert pour cela. Chacun peut s'y attacher avec les moyens qui sont les siens et surtout avec d'autres, car nous remarquons qu'il n'y a pas qu'un seul mage, mais plusieurs dans le récit de Matthieu. La troisième caractéristique, c'est ce voyage qu'entreprennent les mages. Ils ne sont pas restés indifférents et à l'écart, sous prétexte que l'événement signalé par l'étoile concernait un autre peuple que le leur. Se laisser déplacer, se mettre en quête, se sentir partie prenante de la vaste humanité, s'exposer à autrui. Voici, disent les mages, qui appartient à l'humanité de l'humain. Voici, raconte Matthieu, qui témoigne de l'évangile d'ouverture et d'accueil, l'évangile pour tous. Quatrièmement, les mages ont posé des questions à Jérusalem. Ils reconnaissent qu'ils ne savent pas tout. Ils ne craignent pas d'avoir besoin d'autres savoirs, d'autres regards, d'autres compréhensions que les leurs. Chercher, c'est sortir de soi et de l'entre-soi. C'est accepter les différents, ceux qui sont différents, et puis les différents, oui, même aussi quand on n'est pas d'accord. Chercher, c'est se relier à autrui et l'écouter. Cinquième caractéristique, en arrivant auprès de l'enfant, les mages se sont réjouis. Littéralement, le texte grec écrit, ils se réjouissent fortement d'une grande joie. L'humanité dans l'Évangile, c'est aussi de ne pas écraser une bonne nouvelle, même sous les mauvaises nouvelles, même sous les difficultés. C'est accepter de recevoir de la joie dans l'humilité, dans la simplicité du cœur. Et la joie de trouver le Christ dans un petit enfant, c'est celle de reconnaître la vie de la vie. L'appel et la possibilité de l'existence dans une autre existence que la sienne et aussi pour la sienne propre. Et c'est ainsi que la joie véritable, la joie de l'Évangile, nous permet de vivre et d'agir avec plus de justice et plus de bonté. Sixième caractéristique, les mages ont offert leur présent. dans la joie de l'accomplissement de leur quête signifiée par leur prosternation. Ils offrent l'or, la myrrhe, l'encens. Donner ce qu'on a à donner. Donner ce que l'on a dans son trésor. Il ne s'agit pas d'être riche, mais de donner ce qui est précieux, ce qui fait sens, ce qu'on ne perd pas quand on le donne en fait. Déposer un présent, offrir le présent dans les deux sens du terme présent et dans les trois dimensions représentées par les cadeaux des mages. La vie matérielle, mais oui, l'or, parce que nous en avons besoin de cette vie matérielle et de l'assurer un minimum. Mais aussi la vie spirituelle, symbolisée par l'encens. Et puis l'espérance, symbolisée par la myrrhe. Car tout n'est pas clos, tout n'est pas achevé, tout n'est pas accompli dans ce qui est. Et ainsi, chacun peut devenir porteur de grâce, de justice, de paix, de reconnaissance, de confiance. Enfin, septième caractéristique, les mages repartent. Ils rentrent chez eux. Ils ne s'imposent pas. En fait, ils n'imposent rien. Ils rentrent par un autre chemin. Pour ne pas donner prise au jeu du pouvoir qui vise sa conservation, ni au jeu de l'installation, de l'immobilisation qui referme l'avenir. C'est ainsi que le récit de Matthieu invite à se retirer des situations de rivalité, de violence, de haine, à prendre de la distance par rapport aux spirales mortelles et destructrices de l'humanité. Et puis de toute manière, quand on a donné, quand on a reçu, quand on a éprouvé de la joie, le retour, la suite du chemin est différente parce qu'on est soi-même différent d'avoir reçu et donné. Et parce que le chemin devant soi, après avoir trouvé le Christ, n'est jamais tracé à l'avance. Tel est l'apocalypse de l'Épiphanie. Le Christ, puissance universelle de vie et de parole, se trouve quelque part où chacun peut aller et chercher et trouver avec ses moyens, à partir de là où il en est, quel que soit son chemin passé, et pour un avenir toujours ouvert. Bonne année.